Vous écoutez Radio France Internationale, il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel. Dernière partie de RFI Midi sur le continent américain avec à la une la campagne aux États-Unis et Donald Trump qui dénonce un débat truqué hier, débat durant lequel il n'a pas brillé, multipliant les provocations dont il est coutumier. Et ce matin, la presse est unanime. Kamala Harris est apparue plus offensive que d'habitude. Alors, était-ce la bonne stratégie pour convaincre les électeurs indécis? Quelles peuvent être les conséquences de ce débat? Nous poserons ces questions à notre invité dans quelques minutes, l'universitaire Jonathan Paquin. Nous irons aussi en Haïti où les fausses nouvelles propagées par les plus hauts responsables républicains sur les migrants haïtiens. Donald Trump en tête, ces mauvaises nouvelles passent très mal, on le verra. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, en Martinique, le rassemblement à l'origine du mouvement contre la vie chère menace une fois de plus de quitter la table des négociations.
Oui, une deuxième rencontre doit se tenir demain sur cette problématique délicate et le mouvement exige la retransmission des débats sur les réseaux sociaux, ce que le préfet n'avait pas accepté la semaine dernière. Nous entendrons tout à l'heure le président du rassemblement.
À tout à l'heure.
RFI Midi. Anne Contner.
Et on va d'abord faire le point sur l'actualité internationale avec votre journal, Charlotte Hydrac, et ce soutien de poids pour la candidate démocrate à la présidentielle américaine. Taylor Swift vote Kamala Harris.
La chanteuse et superstar a annoncé son soutien sur les réseaux sociaux. Bonne nouvelle pour la vice-présidente, et cela au lendemain du débat télévisé qu'il a opposé à Donald Trump. Vous l'évoquiez, il a lancé plusieurs attaques, l'ancien président américain, mais Kamala Harris, elle, l'a poussé dans ses retranchements. Et d'après la presse américaine, c'est bien elle qui a pris l'avantage après un débat consacré pêle-mêle à l'immigration, l'avortement ou encore l'économie. C'est l'une des préoccupations majeures des électeurs. Il a donc été largement question d'inflation, de droits de douane ou encore de chômage, Justine Fontaine.
Donald Trump, d'abord, n'a pas raté l'occasion de parler assez vite dans le débat de la hausse des prix constatée ces dernières années. L'inflation est à des niveaux quasiment jamais vus auparavant, a taclé l'ancien président. Même si elle est repassée en juillet sous la barre des 3%, la hausse des prix observée sous le mandat de Joe Biden reste l'un des sujets de préoccupation importants des Américains. Face à cela, la vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris a choisi un autre angle d'attaque. Elle a assuré que le programme de Trump allait creuser le déficit public et faisait des cadeaux fiscaux aux plus riches, avant de critiquer la proposition de Donald Trump d'imposer 10 à 20% de droits de douane sur les produits importés.
My opponent has a plan that I call the Trump's sales tax.
C'est la taxe Trump, a raillé la vice-présidente. Une taxe de 20% sur vos produits de la vie quotidienne, a poursuivi Kamala Harris, qui se présente comme la candidate des classes moyennes et modestes.
Et à l'issue de ce duel télévisé, Donald Trump estime que le débat a été truqué, dit-il, par la chaîne organisatrice ABC. Il affirme également que la chanteuse Taylor Swift va payer le prix de son soutien à Kamala Harris sur le marché des ventes musicales. Le chef de la diplomatie américaine, lui, est en Ukraine. Anthony Blinken, accompagné de son homologue britannique, à Kiev, donc, avec au programme des discussions sur un allègement possible des règles concernant l'utilisation des armes occidentales contre la Russie. Moscou a d'ores et déjà promis une réponse appropriée, je cite, si l'Ukraine était autorisée à utiliser des armes à longue portée contre son territoire. Cela n'existe dans aucun pays au monde pour l'instant. Au Mexique, le Sénat a adopté à son tour la réforme judiciaire portée par le président sortant de gauche, Andrés Manuel López Obrador. Ce texte, il prévoit la nomination des juges par un vote populaire. Cela a été houleux. Au Sénat, les manifestants avaient envahi le siège de l'institution. Les élus ont dû se rabattre dans un autre endroit. Cette réforme est très controversée. Ses opposants estiment qu'elle va fragiliser l'indépendance des juges, notamment face aux pressions du crime organisé.
En Argentine, c'est un autre texte qui fait débat, celui sur la revalorisation des retraites.
Un texte voté le mois dernier au Parlement, mais bloqué par le président Milei, qui a opposé son veto. Les députés argentins se réunissent une nouvelle fois aujourd'hui et des milliers de manifestants aussi sont attendus pour faire pression sur les élus indécis et aux consciences.
Après deux manifestations de retraités réprimées par la police à coups de matraques et de gaz lacrymogène ces dernières semaines, la mobilisation de ce mercredi s'annonce tendue et massive. En plus des collectifs de retraités, les principales centrales syndicales du pays et les organisations sociales ont également appelé à se rassembler devant le Congrès. Objectif, essayer de peser sur le vote des députés. Alors que 5 millions de retraités vivent sous le seuil de pauvreté et que l'inflation galopante a grignoté leur pouvoir d'achat au premier semestre, Javier Milei a utilisé son veto présidentiel pour bloquer la revalorisation des retraites votées par le Parlement le mois dernier. Un veto justifié par la volonté de préserver à tout prix l'équilibre budgétaire. Pour lever le veto présidentiel, l'opposition doit réunir une majorité qualifiée des deux tiers à la Chambre des députés puis au Sénat. Cela avait été le cas lors de l'approbation de la loi, mais depuis, le gouvernement s'active en coulisses pour convaincre certains élus de changer leur vote et ainsi s'éviter un cinglant revers législatif. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Le bras de fer entre la Chine et le Canada, ça continue. Ottawa avait déjà imposé une surtaxe de 100% sur les véhicules électriques chinois. Eh bien, le Canada envisage maintenant de s'attaquer à d'autres secteurs. Produits minéraux critiques, d'énergie solaire, batteries ou encore semi-conducteurs chinois. C'est un nouvel épisode de la guerre commerciale entre les deux pays, Gali Bonin.
Oui, Ottawa accuse Pékin de pratiques concurrentielles déloyales. Parce que la Chine subventionne abondamment ses industries vertes, énergie renouvelable, voitures électriques, batteries. Le gouvernement de Justin Trudeau se lance donc dans 30 jours de consultation avant de décider s'il augmente ou non ses droits de douane. Les États-Unis ont déjà imposé une mesure similaire. Selon Elvire Fabry, chercheuse à l'Institut Jacques Delors, c'est Washington qui est derrière cette annonce canadienne.
Compte tenu de l'accord commercial préférentiel qui existe entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, la crainte qu'il puisse y avoir des détournements de flux commerciaux par le Canada a mené Washington à exercer une pression forte sur son voisin canadien pour également dresser les mêmes barrières tarifaires.
L'objectif de Washington serait de faire de l'Amérique du Nord une forteresse impénétrable pour les industries vertes chinoises. Vu la dépendance commerciale et la proximité des deux pays, le Canada n'a pas vraiment le choix de suivre. De son côté, la Chine accuse le gouvernement canadien de protectionnisme. Elle a déposé une plainte devant l'Organisation mondiale du commerce et menace de limiter ses importations de colza canadien qui ont dépassé les 3 milliards d'euros en 2023.
Gali Bonin, le Canada qui a suspendu une trentaine de permis d'exportation d'armes à Israël, notamment celui d'une filiale québécoise d'une entreprise américaine, et cela en plein conflit dans la bande de Gaza.
Cela fait maintenant 3 semaines qu'un pétrolier est abandonné au large du Yémen. Le navire battant pavillon grec avait été attaqué par des rebelles houthis.
Avec à son bord plus d'un million de barils de pétrole brut, l'équipage avait été évacué. Ce navire, il est donc là, immobilisé, lourdement chargé et en feu. Les tentatives de remorquage organisées par l'Arabie Saoudite ont échoué, ce qui fait craindre une méga marée noire, Joseph Clément.
Une marée noire en mer Rouge, un scénario que l'Arabie Saoudite ne souhaite en aucun cas. D'abord parce qu'un million de barils de pétrole, ça serait une atteinte en cascade sur la faune et sur la flore, une atteinte sur la pêche qui nourrit la population côtière. Ensuite, pour l'accès à l'eau potable, comme l'indique Julien Jreissati, directeur de programme de Greenpeace pour la région du Moyen-Orient.
Plusieurs pays, dont le Yémen et l'Arabie Saoudite, dépendent de leurs stations de dessalement de l'eau pour distribuer de l'eau potable à leurs citoyens. Ces stations pourraient être perturbées, voire complètement stoppées par une marée noire.
75% de l'eau potable utilisée dans le royaume vient de la désalinisation des eaux de la mer Rouge. Mais une marée noire comporterait un autre risque, certainement le plus épineux pour l'Arabie Saoudite.
La mer Rouge est un hotspot de tourisme. Et bien entendu, ce secteur aussi souffrirait potentiellement de la marée noire.
Dans le cadre de la vision 2030, le royaume développe son tourisme à grands coups de pétrodollars. Des milliards de dollars qui servent à aménager les côtes de la mer Rouge, des resorts de luxe, des dizaines d'hôtels 5 étoiles sur la côte et sur les îles, avec des promesses de plonger dans des eaux turquoises et vierges, pleines de poissons pour le plus grand plaisir d'une clientèle particulièrement fortunée. Il va donc de soi qu'une marée noire nuirait considérablement au projet d'attirer des millions de touristes chaque année. La diplomatie du royaume reste discrète, mais s'implique. Le pays a bien tenté d'organiser par deux fois le remorquage du Sounion, pour le moment sans effet. Joseph Clément, Riyad, RFI.
Et c'est ainsi que se termine votre journal, Charlotte Hydrac. Nos auditeurs vous retrouvent dans 2 heures. Et nous sommes ensemble pour 20 minutes encore pour la dernière partie d'RFI Midi.
Le journal d'Haïti et des Amériques sur RFI.
Deux visages à la une de la presse aux États-Unis et dans de nombreux pays du monde aujourd'hui, Donald Trump et Kamala Harris au lendemain du débat électoral. Le premier, peut-être le seul, même si les démocrates ont tendu des perches aux républicains pour qu'un deuxième ait lieu le mois prochain. Et nous sommes en ligne pour en parler avec Jonathan Paquin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes directeur de l'École supérieure d'études internationales à l'Université Laval de Québec, au Canada. Alors, avant d'entrer dans le détail avec vous, on va jeter un œil à ce que disent les journaux américains ce matin. Et selon la presse, Vincent Souriau, c'est très clair, hein, le pari est réussi pour Kamala Harris.
Elle l'a mis sur la défensive, elle l'a bousculé, elle l'a piégé et elle l'a battu. C'est le sentiment général de la presse américaine, y compris des titres conservateurs d'ailleurs, qui le reconnaissent. On savait que c'était la stratégie payante, titiller Donald Trump, le provoquer, le faire sortir de ses gonds, eh bien, jackpot, il a mordu à l'hameçon, il a passé son temps à ressasser ses lubies, nous dit le Wall Street Journal, à parler du passé ou de sujets dérisoires, il est devenu de plus en plus vindicatif et Kamala Harris n'a pas eu grand-chose à faire pour l'emporter.
Voilà les journaux unanimes, vous partagez aussi cet avis, Jonathan Paquin ?
Plus ou moins. Écoutez, certains commentateurs conservateurs, vous avez tout à fait raison, ont indiqué que Mme Harris avait très bien fait. Bon, Elon Musk, bien entendu, qui appuie la candidature de Donald Trump, a dit que Mme Harris avait eu un certain avantage. Mais ce qui compte dans ce débat, c'est la manière avec laquelle les électeurs indécis aux États-Unis, que l'on retrouve plus particulièrement dans les 7 États pivots, réagiront au débat. Et le grand thème de cette élection, c'est l'économie. Alors, ce n'est pas si Donald Trump a sorti ou non de ses gonds, ce n'est pas les déclarations fausses qu'il a pu faire, c'est en fait lequel de ces deux candidats est le plus ou la plus crédible pour faire face aux difficultés économiques, au pouvoir d'achat qui diminue depuis plusieurs années. Alors, attendons de voir ce que les sondages indiqueront au cours des prochaines années avant de dire de manière catégorique, et là, je me tourne vers les médias américains, bien entendu, qui semblent être, que Mme Harris a gagné ce débat. Je serais donc un peu plus dubitatif par rapport à ce type de conclusion hâtive des médias américains donc qui sont parus, en fait, dès ce matin.
Cette question de l'économie, a priori, c'est celle qui préoccupe le plus les Américains. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on en sait un peu plus sur le programme de Kamala Harris ?
On en sait plus, c'est-à-dire qu'il y avait une proportion d'Américains qui demandaient à en apprendre davantage sur elle, alors que la quasi-totalité des Américains considéraient qu'ils avaient suffisamment d'informations sur Donald Trump pour se faire une idée. Madame Harris a parlé surtout en début de débat, parce que le thème de l'économie était en tout début de débat, de ses propositions pour aider les entreprises aux États-Unis à se faire une place sur le marché américain, pour inciter la compétition entre les entreprises dans le but de voir descendre, si vous voulez, les prix à la consommation. Donc oui, on en a pris un peu plus, alors qu'on n'a à peu près rien appris sur Donald Trump. Donald Trump n'a fait aucune proposition claire. Il s'est limité à faire peur aux Américains. Mais là où Trump a peut-être marqué un point, c'est lorsqu'il a dit, en fin de débat, « Madame Harris, vous nous avez fait quelques propositions intéressantes, en économie notamment, mais ça fait 3 ans et demi que vous êtes au pouvoir et vous n'avez rien fait. Pourquoi est-ce qu'on devrait vous croire pour les 4 prochaines années? » Alors, encore une fois, c'est l'électeur indécis qui tranchera. Cette élection se jouera sur quelques centaines de milliers, voire peut-être même quelques dizaines de milliers de votes au Wisconsin, au Michigan, en Pennsylvanie, en Caroline du Nord, en Géorgie et puis dans le Sud-Ouest, notamment en Arizona et au Nevada. Et il est trop tôt, à mon sens, pour dire que Mme Harris a gagné haut la main ce débat.
D'autant plus que sur cette question de l'économie, c'est peut-être un peu plus délicat pour elle. Pour les Républicains, la ligne est assez claire. Elle, elle va devoir composer avec des électeurs un peu plus marqués à gauche et puis des grosses fortunes qui sont aussi importantes pour le Parti démocrate.
C'est vrai. Et les sondages indiquent que sur le thème de l'économie, les Américains font plus confiance à Donald Trump qu'à Kamala Harris. Donald Trump, bon, a fait faillite à plusieurs reprises, mais c'est un homme d'affaires. Donc, il donne l'impression de mieux comprendre les enjeux économiques que Mme Harris. Mme Harris était une procureure générale, c'est une avocate, c'est une sénatrice, mais elle n'a pas énormément d'expérience dans ce domaine. Elle a une excellente équipe économique, bien entendu, qui l'entoure, mais elle-même n'a peut-être pas encore, me semble-t-il, la crédibilité pour s'imposer comme une voie valable pour les 4 prochaines années. Et c'est là-dessus, à mon sens, qu'elle devra travailler au cours des prochaines semaines à être très claire, à être très confiante dans ses propositions sur le plan économique. Et dès qu'elle a la possibilité aussi, elle doit continuer à parler d'avortement, qui est son grand thème, un thème de prédilection. 63 % des Américains sont favorables au droit des femmes de décider pour elles-mêmes. C'est beaucoup. Donald Trump est plus faible sur cet enjeu, donc elle doit être plus crédible en économie et parler d'avortement, et ça devrait bien aller pour elle d'ici le 5 novembre prochain.
Et on a bien senti que lui était assez mal à l'aise sur cette question. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux parlant d'avortement même après la naissance. Tout ça était assez confus. Est-ce que cette question, c'est un problème encore pour le Parti républicain, ou en fait tout le monde s'aligne sur la ligne de Donald Trump, sur sa position?
Je trouve que la position qu'il a développée hier, bon, c'est sûr qu'il y a eu 10 écarts de langage, mais il a dit essentiellement depuis 1973, c'est-à-dire depuis l'arrêt de la Cour suprême dans le cas Roe v. Wade, le pays se déchire sur la question de l'avortement. En juin 2022, la Cour suprême, majoritairement conservatrice, est revenue sur cette décision. Et donc, ce que la décision a eu pour effet, c'est de permettre aux Américains, dans leurs propres États, de décider cette question de l'avortement. Donc, il a joué un peu la carte démocratique, si vous voulez, et il a joué jusqu'à un certain point l'unité. Bon, c'est un peu farfelu, mais pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement très conscientisé sur la question de l'avortement, peut-être que ce message était clair et peut-être que ça a convaincu. Donc, je ne suis pas prêt à dire que les Républicains sur la question de l'avortement sont nécessairement perdants sur toute la ligne, mais ça demeure un thème plus favorable pour les démocrates, ne serait-ce que pour les résultats dont je vous parlais, hein, des sondages. 63% des Américains sont favorables au droit à l'avortement.
On a vu aussi hier, puisque je mentionnais ces errements un peu de Donald Trump qui n'ont pas été très fréquents, mais enfin, il y a eu un moment où il a paru un peu perdu. La presse avait commencé à évoquer hier un sujet qui s'est confirmé un peu quand même en regardant le débat. Cette fois-ci, c'est lui qui faisait vieux face à une candidate qui a 20 ans de moins que lui. Est-ce que ça peut avoir un effet sur les électeurs, selon vous?
Ce n'est pas impossible. Moi, je trouve que pour un homme de 77 ou 78 ans, il a passablement d'énergie. Je n'ai pas senti qu'il avait l'air éteint ou qu'il était particulièrement vieux. Chez Joe Biden, c'est très clair. Évidemment, l'âge n'a pas le même effet sur nous tous. Donc, je ne suis pas convaincu que ça jouera. Encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais c'est l'économie qui fera foi de tout. La force de Donald Trump depuis maintenant 8 ans, hein, ça fait plus de 8 ans qu'il est sur la politique, en politique nationale, c'est de canaliser les frustrations et les colères des Américains face à un système qui semble bien souvent les désavantager. Et il joue encore cette carte. Alors, malgré les écarts de langage, malgré les déclarations intempestives, inacceptables bien souvent, ben, il est toujours là pour une troisième élection présidentielle. Dès son entrée en politique, rappelez-vous, en 2016, lorsqu'il avait annoncé sa campagne, il avait débuté son discours en disant que les immigrants mexicains étaient des batteurs de femmes, des violeurs et des vendeurs de drogue. Normalement, ça aurait dû le disqualifier d'emblée. Or, il est toujours là aujourd'hui. C'est donc que, manifestement, ce ne sont pas ces déclarations inacceptables qui font une différence significative dans l'urne. Ce sont les propositions et la perception que les gens peuvent avoir de la force de Donald Trump, de son caractère d'homme dur, avec une masculinité un peu toxique, qui plaît à beaucoup d'hommes aux États-Unis. La majorité des hommes américains en âge de voter, toutes catégories confondues, là, sont plutôt favorables à Donald Trump. Alors, il faut bien le dire. Donc, attendons de voir. C'est sans doute l'élection la plus serrée de l'histoire moderne des États-Unis. Les deux candidats sont au coude à coude dans les 7 États pivots dont nous avons brièvement parlé tout à l'heure. Il est trop tôt pour prédire un gagnant. Alors, nous verrons bien.
Merci beaucoup, Jonathan Paquin, directeur de l'École supérieure d'études internationales à l'Université Laval de Québec au Canada. Vous nous parliez de ces déclarations provocatrices de Donald Trump sur l'immigration. À l'époque, pour parler des Mexicains, des déclarations du même ordre, il y en a eu aussi à propos de migrants haïtiens ces derniers jours, et il les a répétées hier lors du débat.
Tout ce en quoi elle croyait il y a 3 et 4 ans est tombé à l'eau. Elle va maintenant vers ma philosophie.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
Voilà, Donald Trump a repris à son compte une polémique qui avait été lancée par son vice-président, son colistier candidat à la vice-présidente, estimant que les migrants haïtiens enlevaient les animaux de compagnie des Américains, notamment les chats, pour les manger. Vincent Souriau, on va s'arrêter avec vous sur ce point qui a vraiment été un moment assez particulier du débat. Donc des immigrés qui, d'après Donald Trump et certains responsables républicains, mangeraient les les chats, les chiens de la population locale.
Et c'est complètement faux, évidemment, ça ne repose sur aucun fait tangible, c'est démenti, et ça l'était déjà d'ailleurs avant ce débat par les autorités municipales de Springfield. Nous n'avons, dit le porte-parole de la ville, aucun signalement crédible en ce sens. Personne n'a témoigné qu'un animal de compagnie ait subi un quelconque préjudice, ait été blessé ou mis en danger par la communauté immigrante de Springfield. C'est donc une info bidon propagée sur Internet par les cercles d'extrême droite et reprise sans vergogne par Donald Trump devant des millions de téléspectateurs. Alors que cette rumeur infondée avait déjà provoqué, avant même le débat, l'indignation de plusieurs personnalités haïtiennes. Le Miami Herald cite Leslie Voltaire, l'un des membres du conseil présidentiel de transition, qui parle d'accusations non seulement infondées mais inacceptables et d'une rhétorique qui, je cite, risque de diviser et de mettre en péril des communautés déjà vulnérables aux États-Unis. Réaction aussi de Dominique Dupuis, chef de la diplomatie haïtienne, ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Gary Conille, qui a posté sur les réseaux sociaux hier l'extrait d'un texte de la romancière et prix Nobel de littérature Toni Morrison. Que dit cet extrait ? Que si le racisme a une fonction, c'est la distraction, distraire de l'essentiel et obliger les personnes racisées à expliquer encore et encore leur raison d'exister.
Vincent Souriot, les deux candidats à la présidentielle aux États-Unis se sont revus très vite après ce débat puisque Kamala Harris et Donald Trump assistent ensemble en ce moment à New York à un hommage aux victimes du 11 septembre en présence du président Joe Biden. Ça se passe à Ground Zero, là où se trouvaient les tours jumelles détruites donc au moment de cet attentat du 11 septembre 2001. L'actualité des Outre-mer à présent, et on retrouve nos confrères de La Première. Benoît Ferrand, en Martinique, le rassemblement à l'origine du mouvement contre la vie chère menace une fois de plus de quitter la table des négociations.
La deuxième rencontre entre les différents acteurs de la problématique, État, collectivité, importateur, grande surface, etc., doit en effet se tenir demain et le mouvement exige la retransmission des débats sur les réseaux sociaux, ce que le préfet n'avait déjà pas accepté la semaine dernière. Écoutez Rodrigue Petitot, président du RPRAC, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. Il est au micro de Bertrand Caruge.
Partout où on invite le peuple, on sera là. À travers nous, c'est le peuple qui est invité. On sera là. Mais si l'état d'esprit qu'on porte pour le respect du peuple n'est pas respecté, à savoir leur donner l'information à l'instant T, sans qu'il n'y ait à attendre, parce qu'ils ont déjà attendu 15 ans pour que les choses commencent à bouger, si ce n'est pas respecté, ben, une fois de plus, on quittera la table, comme ça s'est passé la semaine dernière. Ce qui va changer, c'est que cette fois, il y aura des répercussions. C'est très, très, très important, la transparence. Aujourd'hui, je ris de ceux qui ont perdu la confiance du peuple. Demain, je n'aurais pas aimé pleurer d'avoir fait le mauvais choix d'être entré à huis clos dans une salle.
On reste en Martinique avec un tout autre sujet, la rénovation d'une résidence universitaire qui n'est plus toute jeune puisqu'elle porte tout de même ses 47 ans. Travaux, début des travaux prévus en principe l'an prochain. Reportage Pierre-Yves Honoré.
Sortie de terre en 1977, c'est la tour la plus ancienne du Crous de Schœlcher qui sera réaménagée. Malgré une rénovation qui date de 37 ans, des problèmes d'infiltration, d'ascenseur vétus et de mise aux normes nécessitent des travaux. À l'heure actuelle, la conduite du chantier n'a pas encore été arrêtée, car se pose une question. Comment concilier la tenue de chantier dans une tour qui accueille toujours du public ? Valérie Cabor, la directrice du Crous.
C'est assez compliqué. Là, il y a deux solutions. Soit vider entièrement le bâtiment, travailler par tranches, alors travailler sur plusieurs paliers, et puis au fur et à mesure, on vide et on re-remplit. Donc les deux solutions sont à l'étude.
150 chambres à rénover dans une tour de 14 étages, auxquelles s'ajoutent 48 autres chambres d'une extension. Les vider entièrement entraînerait trop de difficultés.
Ce qu'on ne voudrait pas faire, parce que ça priverait quand même des étudiants de 150 logements, alors qu'on a un parc de 812 chambres, donc ça fait quand même un gros manque à gagner pour nous, mais surtout, ça fait beaucoup d'offres de logements en moins pour les étudiants, sachant que c'est difficile de se loger sur le secteur de Fort-de-France à des prix corrects.
La seconde solution serait pour l'instant privilégiée. Le maître d'œuvre devra attendre le départ des étudiants pour lancer les travaux juste avant la rentrée. Le budget du chantier n'est pas encore arrêté. Les études de faisabilité sont en cours. Premier coup de pioche en 2025, au plus tard 2026.
Bon après-midi, Anne. À demain.
Merci Benoît Ferrand. On va reparler un petit peu de cette élection présidentielle aux États-Unis, de ce débat, puisque juste après cet échange entre Kamala Harris et Donald Trump hier soir, une annonce est venue, annonce attendue depuis longtemps, redoutée même par les Républicains. C'est le soutien public apporté à Kamala Harris par la star Taylor Swift. Plus de 280 millions d'abonnés sur son compte Instagram. C'est là qu'elle a officialisé un appui à Kamala Harris. Alors, on verra dans les semaines qui viennent si ça peut vraiment avoir un effet sur cette personnalité. En tout cas, elle a taclé immédiatement les candidats et candidats à la vice-présidence américaine du côté républicain, puisqu'elle a signé son poste avec un message qui faisait allusion à une polémique provoquée par le colistier de Donald Trump. Elle a signé « Childless Cat Lady, femme sans enfant et à chat ». Référence à cette polémique du mois de juillet à lui qui avait moqué les folles à chat sans enfants qui ont raté leur vie, c'était ses mots. Et puis ce soutien de Taylor Swift, il pourrait prendre une forme peut-être un peu plus concrète puisqu'elle va donner des concerts dans le très conservateur État de Floride juste avant le début du vote. En tout cas, la menace semble être prise au sérieux puisque Donald Trump lui-même a réagi à cette annonce. Il y a quelques minutes, il a prévenu que Taylor Swift allait payer son soutien aux démocrates dans ses ventes. Time of her life. There in her glittering prime, the lights refract, sequined stars are for silhouette every night. I can show you lights. Et on va l'écouter justement, Taylor Swift, cette star qui a officialisé son soutien à la candidate démocrate à la présidentielle. Voici le titre « I can do it with a broken heart ». Et c'est avec Taylor Swift que se termine RFI Midi, réalisé aujourd'hui par Yann Eligouin. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, 11h, temps universel. Et vous ne bougez pas, dans quelques secondes maintenant, de vive voix avec Pascal Paradou et le journal de bord d'une prof française.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Cette semaine, je vous propose un focus sur la littérature de Lituanie. Ce pays balte d'à peine 3 millions d'habitants est en effet invité d'honneur en France pour une saison pluriculturelle jusqu'en décembre. L'occasion de découvrir les auteurs contemporains lituaniens à travers un grand reportage sur place à Vilnius.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.